Mais bonjour Fabrice Drouel.
Alors, il n'y a rien de plus important que le sujet que vous abordez aujourd'hui.
Et oui, aujourd'hui, de l'Antiquité à nos jours, une histoire de la conquête amoureuse. C'est dans les théâtres que tu dois te mettre en chasse. Assieds-toi près de la fille que tu convoites, serre-la de près et cherche un prétexte pour engager la conversation. Ovide, l'art d'aimer. D'histoire. On n'a pas attendu Casanova ou Don Juan pour apprendre à séduire. Il y a 2000 ans déjà, Ovide enseignait aux jeunes Romains l'art et la manière de conquérir une femme. Et si au XXIe siècle, on drague moins souvent au théâtre que dans les boîtes de nuit, si les Roméos d'aujourd'hui préfèrent utiliser le net ou les annonces de Libé, plutôt que de séduire Juliette au pied d'un balcon, si les femmes sont moins sensibles aux muscles et aux prouesses guerrières de leurs soupirants qu'au Moyen-Âge, et si on ne dit plus compter fleurettes ou faire la cour, mais draguer, les mots signifient toujours la même chose. Seules les méthodes ont changé, et on ne drague plus aujourd'hui, comme le faisaient naguère les fondateurs de Rome, quand ils avaient besoin de femmes.
Dans 2 mois, les Sabins célébreront leur grande fête des moissons. Préparez vos plus beaux atours, nous irons tous ensemble.
Pour demander la main des Sabines.
Oui, Vulcus, mais à ma manière, la manière romaine. Salut à toi, roi des Sabins. Je suis Romulus, roi de Rome.
Salut à toi, Romulus.
Braves amis Sabins, buvez à la santé de Rome.
Et toi, Romulus, tu ne bois pas?
Le signal, à toi, Stilicone.
Très bien, dans ces conditions.
Jean-Claude Bologne, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier une histoire de la conquête amoureuse qui a été publiée au Seuil. Au fond, la conquête amoureuse, c'est un peu le contraire de l'enlèvement des Sabines. Vous dites même qu'au fond, c'est le début de la civilisation.
Oui. On a toujours, on a gardé de 2000 ans d'histoire du christianisme, ce mépris pour le séducteur qui a rejailli sur le dragueur aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a y opposé? Soit le rapt, l'enlèvement, soit le viol, soit le mariage arrangé, mais la civilisation, pour moi, la civilisation amoureuse en tout cas, commence à partir du moment où la femme a le choix, et le choix de dire non, qui n'est plus laissé ni à ses parents. Que n'avait pas les Sabines, donc le rapt, l'enlèvement. D'ailleurs, on peut distinguer le rapt et l'enlèvement des Sabines. On n'a pas demandé l'autorisation des Sabines. Mm-hmm. En revanche,
et encore moins des Sabins, d'ailleurs.
Encore moins des Sabins. Mais en général, le rapt, c'est un enlèvement avec l'autorisation de la jeune fille. Et c'est une belle histoire d'amour. Le rapt se fait contre la famille, contre les parents qui refusent le mariage. C'est déjà un tout petit progrès. Mais l'enlèvement, le viol, se font sans le consentement de la femme. Et vraiment, l'idée de dire que la femme peut dire non est le fondement de la liberté amoureuse.
Et de l'histoire de la conquête amoureuse qui commence précisément à Rome, où on n'enlevait plus des Sabines du temps d'Ovide, mais c'est lui au fond qui a codifié un peu cette conquête amoureuse dans son livre L'Art d'aimer, qui est évidemment un peu la Bible justement des séducteurs, en tout cas des séducteurs de l'époque, parce que le nom a changé, hein. On dit la conquête amoureuse, ça s'est appelé de diverses manières. On disait faire la cour, séduire, galer ou gâter les femmes,
galer,
je crois. Galer les femmes,
c'est
ce que disait Villon. Hein. Les alourder aussi, c'est nettement moins joli. Hein.
Alourder, c'était le terme du Moyen-Âge, effectivement. Oui, le terme désigne des choses différentes, mais à peu près la même chose, mais aussi des situations différentes. Il ne faut pas confondre, effectivement, la drague, qui est très caractéristique de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est incompréhensible sans la pilule, sans la pénicilline, qui font que les relations sexuelles sont dédramatisées, qui est incompréhensible sans les congés payés, sans les vacances, sans l'émancipation de la femme, la libération des mères, etc. Avec le dating dans les années 1920, qui est incompréhensible sensible sans l'automobile, sans le téléphone, avec le flirt dans les années 1890-1900, qui est incompréhensible sans la civilisation des loisirs, les paquebots. Et on pourrait remonter comme ça de génération en génération. Il y a des mots différents avec des techniques qui sont très semblables. Depuis Ovid, effectivement, beaucoup de choses sont codifiées et se répètent d'un manuel à l'autre, mais aussi avec des situations un petit peu différentes. On avait tout à l'heure, juste ce petit détail, c'est que ça sur le théâtre. On n'imagine pas comme la drague au théâtre ou au cinéma a changé avec l'invention de l'accoudoir, tout simplement, qui n'existait pas au temps d'Ovide.
Mais du temps d'Ovide, on faisait du pied. C'est même lui qui le recommandait, hein, dans son art d'aimer. On se collait contre sa voisine, on engageait la conversation. Il y a toujours une chose qui n'a pratiquement pas changé, sauf à l'extrême fin, nous le verrons tout à l'heure, c'est que c'est toujours l'homme qui fait le premier pas. C'est l'homme qui drague, c'est le dragueur, il n'y a pas de dragueuse.
Alors, dans les mots déjà, le registre est emprunté au vocabulaire de la chasse. Ovid a cette image, effectivement, c'est un terrain giboyeux, ouais. On part en chasse. Au vocabulaire de la guerre, la conquête amoureuse, c'est un vocabulaire guerrier, et au vocabulaire de la pêche, la drague, c'est un filet de pêche. Donc, effectivement, ce sont des activités masculines, et depuis toujours, la femme... Et j'entends la femme honnête, la jeune fille honnête et la femme mariée sont interdites du premier pas. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est montrer qu'elles sont disponibles éventuellement.
Alors la façon dont on les considère a quand même changé avec le temps. La femme gibier d'Ovide devient une femme qu'on élève, en tout cas pour certaines d'entre elles, sur un piédestal au Moyen-Âge avec l'amour courtois.
Alors madame la comtesse de Pintière, reine du tournoi, nous proclamons l'écuyer aventureux, messire Bertrand du Guesclin, vainqueur de la joute.
Au prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en combat courtois. L'anglais tient le duché, messire Bertrand. Nos droits seraient heureux d'avoir champion tel que vous.
Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai.
Vous le saurez bientôt, messire Bertrand.
Je mire d'amourette, c'est une chanson du XIIIe siècle, de l'époque de cet amour courtois qui a quand même changé la donne, du moins pour certaines femmes. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, pour les femmes de la haute noblesse, elles sont sur un piédestal.
Oui, tout en étant que l'amour courtois s'adresse à une femme de condition sociale supérieure. Oui. Ce qui veut dire que, en fait, le respect qu'on leur doit, on le doit avant tout à leur rang. Et avec une femme égale, ou inférieure et naturellement inférieure, car la femme est naturellement inférieure à l'homme, même dans l'amour courtois, on a beaucoup moins de respect. Ce qui veut dire que le respect que l'on doit à la femme dans l'amour courtois est en fait une façon de cacher la profonde misogynie du chevalier qui respecte la femme qu'il aime parce qu'elle est supérieure socialement.
Et inaccessible.
Et inaccessible, enfin, dans le meilleur des cas, si je puis dire, inaccessible, c'est une suzeraine, c'est une femme supérieure socialement et souvent mariée, le plus souvent mariée, donc il ne faut pas qu'il y ait de relations sexuelles, effectivement, c'est un amour chaste.
Et devant laquelle il fait ce qu'aucun homme ne faisait avant cette époque, c'est-à-dire il se met à genoux, parce que c'est le vassal qui se met à genoux devant le suzerain, la femme à laquelle il rend hommage. Je crois que c'est la première fois qu'apparaît ce mot, en tout cas dans les dialogues entre un homme et une femme, hein, mes hommages madame, mais ça vient de là, on rend hommage au suzerain.
Oui, la femme étant supérieure socialement, tous les codes de l'amour courtois sont empruntés au code de la féodalité. On rend hommage à la femme, donc on est l'homme, le vassal de la femme. On s'agenouille comme on s'agenouille devant le suzerain. Le baiser qu'on lui donne est aussi le baiser d'hommage vassalique. Ce n'est pas le baiser...
C'est ça
profond.
Le baiser sur la bouche, c'est à l'origine ça.
Pas le baiser profond avec le mélange des langues qui, lui, est un baiser de courtisane. C'est totalement différent. Mais l'échange des souffles, le baiser sur la bouche, est, je ne dirais pas... à l'origine, à l'époque de l'amour courtois. Mmh. Oui, il existait auparavant, bien entendu.
Alors ça, c'est vrai pour les femmes de la haute noblesse, pour la duchesse ou la comtesse de Penthièvre qu'on a entendu dans l'extrait de film. Mais alors, pour la paysanne, comment se passaient les choses? Comment l'homme courtisait-il dans les villages, dans les campagnes, mmh. les femmes?
Alors là, il faut encore distinguer. C'est vrai pour la femme de la haute noblesse, à condition que ce soit avec un noble de condition inférieure, mais avec son mari, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a aucun respect pour son épouse, dont on est le maître, chef et maître, oui. Selon saint Paul. Lorsque un seigneur a une inclination pour une femme de condition inférieure ou une paysanne, il n'y a aucune précaution à prendre avec elle parce qu'elles ne peuvent pas connaître l'amour courtois. Et entre deux paysans, on a relativement peu de renseignements, mais on en a quelques-uns, il y a des relations de relatif respect, je dirais, qui peuvent être beaucoup plus directes, mais qui connaissent déjà le cadeau symbolique, par exemple, la pantoufle, l'objet d'intimité, l'épingle qui porte effectivement le symbolisme de la flèche d'amour qui va percer, qui va piquer la femme. Donc il y a déjà une sorte d'adaptation de la mentalité courtoise à un tout autre niveau, et c'est la première fois qu'on a des traces de déclarations d'amour dans des milieux populaires encore très 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 faibles.
Mmh. Alors les choses vont changer. D'abord, il y a l'âge classique. Vous dites que l'âge classique, après le Moyen Âge, c'est vraiment l'apogée au fond de l'histoire de la conquête amoureuse.
S'introduit d'autres rapports entre l'homme et la femme, et notamment ça va introduire toutes les stratégies psychologiques. Par exemple, celle de piquer l'orgueil d'une dame en feignant de la mépriser, ou celle de piquer sa jalousie en courtisant une amie de la femme que l'on veut atteindre. Donc toute une série de stratégies qui font appel à toute la complexité de l'âme humaine et qui vont déboucher sur les grandes stratégies du XVIIIe siècle, de la Claude, des liaisons dangereuses, de Casanova.
Oui, les libertins qui considèrent à nouveau la femme comme un gibier, tout juste bon d'ailleurs à collectionner comme le faisait Casanova, vous le dites, Don Juan, ou encore le Valmont des liaisons dangereuses.
Séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage, baste, que puis-je espérer de plus prestigieux?
Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure.
Au contraire! Sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son Dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais, car le mot trahison est de vos favoris.
Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là?
Alors avec le Valmont des liaisons dangereuses, Jean-Claude Bologne, là, ça n'a plus rien à voir. La conquête amoureuse, ben on l'a fait pour la conquête, c'est la fin même. L'objectif, c'est ça, c'est même plus le moyen d'arriver à ses fins.
Oui, l'idéal est de montrer que on est un parfait connaisseur de l'âme humaine et de l'âme féminine, donc que l'on peut en jouer comme un virtuose joue d'un instrument, et finalement concrétiser cette conquête. Oui, c'est important d'une part parce que c'est une satisfaction des sens, mais on peut fournir la satisfaction des sens autrement, et surtout parce que cela prouve qu'on a gagné, qu'on a vaincu. Mais
le langage employé est un langage guerrier.
Hein. Est un langage extrêmement guerrier à l'époque, oui, oui. La conquête, rendre les armes, ça, oui, oui. Mais effectivement, ce qu'on trouve dans les grandes stratégies du XVIIIe siècle, c'est une façon détournée de déclarer son amour ou de prouver son amour qui n'a rien à voir avec l'amour. On était dans les liaisons dangereuses. Cette scène centrale où Valmont fait la charité à un pauvre dans un village en sachant qu'il est observé par un espion de la présidente de Tourvel, que ça lui sera rapporté et que du coup elle va s'intéresser à lui. C'est tout à fait typique de ces nouvelles stratégies. On ne déclare pas sa passion parce que ça peut heurter les sentiments, ça peut heurter de face, de front les sentiments de la femme, mais de façon détournée, on attire son attention sur le personnage du séducteur et on le présente sous ses meilleurs son meilleur jour.
C'est un jeu, hein. Mais c'était un livre, est-ce que c'était la réalité?
Alors, On trouve de ce genre de stratégie dans la réalité. Oui, je pense par exemple à Mirabeau qui se fait passer pour l'amant de la duchesse de Lamballe pour conquérir une jeune personne et qui monte tout un scénario au bal de l'opéra où il fait déguiser un de ses amis d'ailleurs, mais pas une en duchesse de Lamballe et une amie en Marie-Antoinette et il monte toute une petite pièce de théâtre indirecte pour montrer qu'il est bien placé pour séduire une jeune femme. Ça termine dans un grand scandale. Je pense aussi à Bernadette Saint-Pierre, je pense, qui avait été prisonnier à Varsovie, dans son voyage à Varsovie, qui est délivré par la chambellane de Lituanie, et il se croit obligé de lui faire un petit brin de cour. Il lui fait un petit compliment du genre, vous m'avez libéré, mais c'est pour m'imposer une autre prison. Alors qu'il est amoureux ailleurs, et il a par ailleurs des maîtresses. Mais ce marivaudage, cette façon de faire la cour aux femmes pour le plaisir de leur donner de faire un beau jeu de mots, c'est le plaisir.
C'est la galanterie, en fait.
C'est une galanterie, une galanterie qui devient presque sans objet. Oui.
Et qui devient, et contre laquelle s'insurge la révolution, avec laquelle, comme beaucoup d'autres choses, la conquête amoureuse va changer. On va voir réapparaître le prestige du combattant à l'époque des guerres napoléoniennes. Et puis avec le romantisme, alors là, les choses changent. L'amour devient pratiquement mystique, une expérience mystique, Jean-Claude Bologne, dites-vous.
Oui, c'est la grande époque des âmes sœurs. Les âmes sont prédestinées à se rencontrer. Si on a la chance de croiser l'âme sœur dans la vie, c'est le coup de foudre. L'expression date de l'époque romantique, même si le fait est plus ancien. Et du coup, la rencontre s'impose comme une évidence. Tout en étant que le romantique peut être aussi volontiers cynique, et le coup de foudre, ça se mime. Dans les traités de séduction du 19e siècle, on trouve le moyen de mimer le tremblement, par exemple, en oui. s'appuyant sur une jambe jusqu'à ce que le corps en déséquilibre se mette à trembler, mimer les larmes en fixant une source de lumière très vive, mimer l'évanouissement, et même
exploiter, dites-vous, par exemple, sa maladie, ce que fait la dame aux camélias, hein, qui est vraiment malade, mais qui aggrave encore sa pâleur parce qu'elle attend son amant, et quelqu'un dit, mais vous êtes malade? Non, je l'attends, dit-elle. Alors, il y a aussi des femmes qui commencent aussi à prendre l'initiative. Alors là, il y a des tas de techniques plus ou moins codées qui permettent à une femme de faire savoir à son soupirant ce qu'elle pense de lui. Vous parlez du langage des éventails. Alors, quand on avait un éventail, vous le dites, ouvrir trois lames devant ses lèvres signifie « je vous aime », se frapper la main gauche de son éventail appelle à l'amour, en compter les lames invite à parler, le nombre de lames ouvertes donne le nombre de jours pour fixer un rendez-vous. Oui. C'est extraordinaire, c'est le langage des fleurs.
C'est le langage des fleurs, là encore une fois, qui existe depuis un certain temps, mais qui se codifie au 19e siècle. Le principal recueil du langage des fleurs va jusqu'à 580 fleurs, qui distinguent 155 nuances de sentiments différentes. Donc il y a effectivement une codification extrême, mais c'est aussi la première fois où la jeune fille honnête peut sortir... parfois sans être chaperonné et sans être sans passer pour une fille facile. Donc effectivement, c'est l'époque où on commence à suivre dans la rue, où l'on commence à échanger des signes discrets comme le langage des éventails, d'autres. Donc la fille est un tout petit peu plus libre qu'à l'époque classique, un petit peu moins surveillée, et ça change beaucoup de choses dans la façon dont on l'approche.
Et il y a le langage de la danse. Alors bon, elle existait toujours, ça a toujours servi, mais les danses d'autrefois, évidemment, on était loin de l'autre, on pouvait se faire un clin d'œil, mais pas plus. Alors là, il y a une grande révolution au 19e siècle, c'est la valse qui scandalise parce que les corps se touchent.
Oui, il faut se rendre compte aussi que la jeune fille qui est à son premier bal, donc entre 16 et 18 ans, sort de son couvent, n'a jamais rencontré d'homme, et tout à coup, on la projette dans une vive lumière, les épaules dénudées, alors que toutes les autres robes sont très strictes, dans les bras d'un homme qui peut la toucher, et qui pendant 3-4 minutes peut lui dire tout ce qu'il veut à l'oreille. Et bien entendu avec une vitesse de rotation qu'on n'avait jamais connue dans les danses. Tout ça fait que la valse a été un phénomène social difficilement imaginable aujourd'hui.
Et plus tard le tango, la java, et puis au XXe siècle le slow qui permettait aux hommes de tester les sentiments de leurs partenaires, c'est en tout cas ce qu'ils croyaient.
Qu'est-ce qu'il est collant ce type?
Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Elle en peut plus. Il la rend dingue, la poulette.
J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je vois Sainte-Catherine, mais alors, les exciter comme ça, merci bien.
Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque.
Aïe! Mais il fait givrer, ce mec. Il vient me labourer la peau du dos avec son ongle.
Bien joué, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant.
Berk. Berk, 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 Berk.
Et voilà le travail. C'est pas si compliqué les gonzesses. Il faut savoir s'imposer. C'est tout.
Ladra, Guy Bedos et Sophie Domi en 1972, dans votre très sérieux livre, Jean Bologne, vous y consacrez quand même une page. Alors c'est révélateur, ça, du XXe siècle. C'est un bouleversement, le XXe siècle, dans l'art de la conquête amoureuse. D'abord parce que, après la Première Guerre, les hommes et les femmes se retrouvent à égalité.
Alors l'émancipation de la femme, même très relative et très lente, a changé la donne, effectivement, et la maîtrise de la femme sur son corps. Elle ne craint plus comme autrefois la grossesse ou la maladie sexuellement transmissible,
jusqu'à la pilule quand même.
Jusqu'à la pilule, mais là nous commençons à la pilule. Le mot drague apparaît dans les années 50 en même temps que la pilule, même si les deux faits ne sont pas liés, ils sont concomitants. Donc à partir du moment où la relation sexuelle perd ses dangers historiques, ses 2000 ans de dangers historiques et plus, on perd la distinction entre, ou on perd progressivement la distinction entre séduire pour la bonne cause, c'est-à-dire le mariage, ou non. On peut séduire une jeune fille pour une nuit en gardant ouverte la perspective du mariage. Il y a 100 ans, ce n'est pas possible. Si on pouvait, si on séduisait une fille le premier soir, ça voulait dire que c'est une fille de mauvaise mœurs et ce n'est pas la femme qu'on allait épouser. Donc il y a un autre regard que l'on pose sur le premier pas, sur la première relation qui peut être relation sexuelle et déboucher après sur mariage, relation.
Et un premier pas que cette fois-ci font ouvertement les femmes. L'homme perd un peu son rôle d'initiateur et puis les femmes peuvent se montrer parfois aussi directes que les hommes dans le nouveau langage et sur les nouveaux lieux de la conquête amoureuse. France Inter, José Sétien, le 13 juillet 1985.
Le journal du dimanche publiera demain un sondage amusant sur les Français et la drague. Une information qui intéressera tous ceux qui, au bord des plages, goûtent cette année au plaisir de la drague. Ils trouveront dans cette enquête les meilleures recettes pour trouver l'âme sœur.
Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ?
Ça va pas, non ?
Bon, j'insiste pas.
Pas possible. Tu vas faire toute la plage. À la longue, ça risque de marcher. Oh, dans le fond, c'est lui qui avait raison. Les vacances, c'est la liberté. Oh, je suis conne de pas avoir accepté. Si j'ai envie, je vois pas pourquoi je dirais pas à un mec. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel?
Vous êtes gentil, mais...
Il est fatigué.
Je ne vois pas pourquoi je me verrais une fille vénale alors qu'en cherchant un peu sur la plage.
Gros salaud, bandit, sale type.
Vous fâchez pas, c'est logique.
Oh, je suis conne de pas avoir accepté.
Elle peut le dire.
Maintenant c'est trop tard.
Eh oui.
Les vacances c'était pour ça. C'était demander gentiment.
Ben voyons.
Oh, je suis conne de pas avoir accepté.
C'est fini.
Elle est conne de ne pas avoir accepté.
C'est la musique de Vive les femmes de Claude Confortès, tirée de la BD de Reiser en 1984. Vraiment, là-dedans, il y a toutes les nouvelles méthodes de drague dont vous parlez à la fin de votre livre, Jean-Claude Bologne. D'abord, le langage beaucoup plus cru.
Oui, et surtout ce chantage de la libération. Si on n'accepte pas les avances d'un homme, c'est qu'on est coincé, et oui. Une sorte de chantage de sentiments là, qui effectivement a marché à une certaine époque. Je ne dis pas à toutes les époques qu'il y a une sorte de retour de bâton dans les années 90, où le macho, au contraire, a eu plutôt mauvaise presse, où d'autres modèles se sont mis en place, notamment le modèle du Allô Maman Bobo de Souchon, l'homme que l'on plaint et qui drague en se faisant plaindre parce que il réveille les sentiments maternels de la fille.
On tient plus compte du physique, comme pour Gainsbourg. On est séduit par la maladresse de Woody Allen. Effectivement, l'homme change. Il y a aussi les lieux. Hein, on l'a entendu. Il y a l'importance, évidemment, des clubs de vacances. Vous parlez même d'un club, l'UCPA, hein, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, qui devient un coup par an. Hein, c'est assez extraordinaire. Mais vous le dites aussi, au fond, le macho revient. Hein. On l'a ridiculisé avec Aldo Maccione, on a encensé Souchon, Gainsbourg, etc. Et voilà que le macho revient maintenant.
Et alors c'est un phénomène effectivement qui depuis une dizaine d'années revient par les banlieues, qui revient par Internet. Et il y a des choses qui font un peu dresser les cheveux sur la tête, qui des techniques de drague, de séduction qui reprennent un vocabulaire agressif extrêmement ancien. Il faut tomber les poulettes, il faut tirer un coup la nuit, cette nuit, des comportements de muflerie qui reviennent, ne surtout pas payer le verre à la fille parce que c'est se mettre en état d'un infériorité par rapport à la cible. Donc il y a toute une série de techniques de machisme qui reviennent à la mode essentiellement par des groupes de séduction par Internet et qui ont effectivement dans les banlieues une audience qui peut sembler inquiétante pour l'évolution des rapports entre l'homme et la femme.
On revient au début à l'enlèvement des Sabines alors.
On revient aussi à la façon dont les preux chevaliers traitaient les bergères au Moyen Âge.
Merci en tout cas Jean-Claude Bologne de nous avoir rappelé en si peu de temps 2000 ans d'histoire de la conquête amoureuse. C'est également le titre de votre livre publié aux éditions du Seuil dans la collection L'Univers historique. Puis vous venez également de publier Qui m'aime me suivent, dictionnaire commenté des allusions historiques chez Larousse dans la collection Le souffle des mots. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'enlèvement des Sabines de Richard Potier chez UGC Vidéo, Du Guesclin de Bernard Delatour édité en cassette par TF1 Vidéo, Les liaisons dangereuses de Stephen Frears disponible en DVD aux éditions Warner Bros. Et enfin vous avez un message, non on l'a pas passé ce film là. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aveline Carmois et Henri Bérec, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivar, une réalisation de Anne Comilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, Clémenceau avec Michel Vidocq.
France Inter présente Caetano Veloso.
Ah, comme on est bien.
En concert à Toulouse le 5 octobre, à Lyon le 7 et au Zénith de Paris le 9 octobre. Retrouvez Caetano Veloso dans le programme musical de France Inter.
Dis papy, on continue l'histoire avec Réunica ?
Ce soir-là, le petit prince avait rendez-vous avec le serpent dans le désert. Il dit à son ami l'aviateur, ne sois pas triste, là où je serai très heureux.
Pour accompagner vos proches, Réunica a conçu une garantie obsèque, avec assistance aux démarches, soutien psychologique et bien sûr, versement d'un capital.
Pour 40 centimes d'euros par jour, si vous avez 65 ans, c'est vraiment rassurant.
Appelez gratuitement Réunica au 0800 11 33 33. Conditions sur réunica.com.
La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Prenez Arthur et Sarah par exemple. Ils doivent se voir ce soir. Et chacun de son côté s'interroge sur le préservatif qu'ils utilisent depuis des mois, sur la pilule qu'ils aimeraient utiliser un jour. Et oui, l'amour, c'est aussi se poser des questions. Alors autant avoir les bonnes réponses. Arthur et Sarah vont donc appeler le 0800 235 236 pour poser toutes leurs questions sur la contraception. C'était un message de l'INPES et du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Appel gratuit depuis un poste fixe.
Dans quelques instants, Mathieu Vidal et sa tête au carré. Aujourd'hui, se construire à travers le jeu. Mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h. Les Les informations, Claire Servageon. Bonjour Claire.
Bonjour Patrice Gélinet, bonjour à tous. Présentation ce matin au Conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2008. Un budget en déficit de plus de 41 milliards d'euros. Un budget qui prévoit le non-remplacement de près de 23 000 fonctionnaires. Pour Nicolas Sarkozy, c'est un budget de valorisation du travail. Pour le Premier ministre François Fillon, c'est un budget sérieux et sans cadeaux fiscaux. Ce n'est pas ce que pense l'opposition. François Hollande prévoit un plan de rigueur après les municipales. Va-t-on vers un bras de fer entre députés et sénateurs à propos des tests ADN pour le regroupement familial ? La question est posée. La commission des lois du Sénat a supprimé cette disposition très controversée. En Birmanie, la répression a commencé. La junte militaire au pouvoir a procédé à des tirs de semonce pour disperser les